Néanmoins, j'aimerais bien juste qu'on revienne sur votre ressenti sur la presse actuelle. Parce que, ok, on a vu que vers les années 2000, la fin des années 2000, 2010, 2012, eh bien, il y a eu, la presse a périclité, la presse jeux vidéo a périclité, mais ça ne s'est pas arrêté là. Nous, on s'était dit, bon, bah voilà, Internet a gagné, la presse est terminée. Et puis non, pendant cette période-là, il y a eu quelques titres qui sont restés, enfin qui est apparu en 2007, 2000 dans ces eaux-là, Pix & Love, IG, etc., qui étaient vraiment fondés sur le fait que le jeu vidéo aujourd'hui, dans la presse, en tout cas sur le papier, devait être fait sur du fond, c'est-à-dire avec des articles de fond qui étaient plus intéressants que de l'actualité, pour le coup, qui étaient tout de suite obsolètes. Et puis, bizarrement, depuis, 2 ans, on voit pléthore de magazines soit revenir, comme mm-hmm. Jeux Vidéo Magazine, et ça on va en parler avec Vincent, soit apparaître, comme JV Le Mag, comme Gaming,
Video Gamer,
comme...
C'est pas Gaming, c'est Games.
The Game.
The Game et Games.
Voilà, The Game qui là aussi Vincent travaille dessus, puisque c'est dans le giron de Jeux Vidéo Magazine. Nous en parler. Et alors, ils sont tous différents, hein, je veux pas faire de l'assimilation les uns des autres, mais du coup, finalement, il y a un rebond.
On est agréablement surpris.
Parce qu'on se dit, voilà, aujourd'hui, vous allez dans un kiosque, à un moment, vous n'aviez plus rien. Et mis à part les MOOC,
il y avait Micro Simulator Magazine, Canard PC et Jeux Vidéo Magazine. Voilà ce qu'il y avait un moment.
Et alors, Jeux Vidéo Magazine qui a toujours été fidèle dans l'existence, tant mieux. Et puis il y avait les MOOC, donc Pix & Love et IG, quand vous aviez de la chance de les trouver dans les kiosques. Et il n'y avait rien d'autre. Et aujourd'hui, vous avez quand même du choix. Et je voulais avoir vos réactions par rapport à ce rebond qui est fort intéressant. Savoir finalement qu'est-ce qui s'était passé, quel est le déclic, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on a du choix dans les kiosques à l'ancienne.
On est passé d'une époque où il fallait un gros groupe de presse pour faire un magazine à une époque où il suffit d'avoir un peu de jugeote, des bons contacts auprès d'un imprimeur et de la distribution. Et puis tu te débrouilles, tu n'as plus besoin d'avoir un gros groupe de presse aux fesses. Il suffit d'être motivé, d'avoir envie de le faire. D'autres l'ont prouvé bien avant. Je pense à Canard PC, ils l'ont fait bien avant tout ça.
Oui, c'est vrai.
Mais
ils ont eu aussi des difficultés.
Ils ont eu des difficultés.
Ça fait très longtemps. Hein.
C'est super dur, mais
ils sont toujours là.
Ils ont un peu comme nos lives. Mais ils ont réussi à le faire. Et quelque part, ça a été eux finalement les vrais précurseurs. Mais la vraie différence par rapport à avant, c'est la mort de Futur, Yellow, Merced, etc. On dirait un nom espagnol.
C'est vrai.
Ça, il y a plein de noms. Et puis la disparition ou le désintérêt des gros groupes de presse de la presse jeux vidéo dont parlait Alain tout à l'heure, c'est le fait que ces groupes là s'y intéressent plus, ça laisse la main libre à tous les gens qui ont envie de s'y intéresser, il y en a plein. Donc,
et c'est un peu ce qui s'est passé à un moment en Allemagne aussi.
Oui,
je me souviens de la fermeture de Futur Allemagne. Après justement tous les gros magazines qui ont disparu, donc ils avaient pris le monopole aussi là-bas, il y a plein de journalistes qui se sont regroupés et qui ont fait leur propre mag, et puis ça continue.
Et résultat, ça marche très bien.
Ça continue à s'allonger.
C'est deux fois plus gros que la presse française. Encore.
Parce que,
un peu plus de lecteurs. Mais...
Parce que il faut bien rappeler, Vincent est là pour en témoigner, c'est que le jour J, moi, je vous donne ce qui s'est passé, c'est que nous, le jour où on enregistre le podcast Joypad, ce jour-là, se fait la réunion décisionnaire sur la reprise de Jeux Vidéo Magazine. Donc on doit avoir Jean-François Maurice, alias TSR, dont parlait HL tout à l'heure. Ils ont dit qu'il s'appelle HL, TSR, c'est génial, c'est que des acronymes. Et alors que TSR, c'est pas du tout Jean-François Maurice, donc rien à voir. Et donc se faisait ce soir-là, cette réunion-là. Donc il m'appelle et il me dit, bon, je pourrais pas être de la partie pour le podcast Joypad, malheureusement. Et ce jour-là, ça faisait quelques semaines que c'était un petit peu dans l'air et on avait lu ça. Et on s'est dit, mais ils sont absolument fous, c'est complètement dingue de reprendre un canard et on n'est pas sûr que ça va marcher, etc., etc. Et ce que m'expliquait Vincent en antenne, et ce qui m'intéresse qu'il explique maintenant face au micro, c'est comment ça s'est fait et quelle perspective sur le marketing, comment vous avez dirigé ça? Parce que finalement, ce qu'on a dit, c'est qu'il pouvait y avoir du marketing intelligent finalement.
Alors moi, j'étais pas au moment du rachat, enfin de la proposition de rachat qui avait été faite par TSR, Brice, Laurent et un autre actionnaire mystère. Mais c'est simple en fait. À une époque, Jeux Vidéo Magazine faisait vivre la boîte avec un modèle économique périmé, avec des surcoûts de partout. Imaginez un bateau qui prend l'eau de partout, quoi, qui a des fuites partout. Et imaginez que ce bateau avance grâce à un petit moteur, et puis on a un canot. Voilà, on a un canot et on n'a pas de rame. bah tu prends le moteur du gros bateau qui est en train de couler, tu le mets sur le petit canot et ça te fait un hors-bord. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé dans leur idée en tout cas. Ils se sont dit qu'avec les moyens qu'on connaît maintenant sur la presse, avec les évolutions technologiques aussi, qu'on changeait beaucoup de choses maintenant, envoyer des fichiers à un imprimeur, tout se fait par internet, c'est super simple. La distribution, la diffusion, tu peux gérer ça de manière beaucoup plus pointue maintenant avec l'outil informatique. Tous ces aspects-là, finalement, il n'y a pas besoin d'être une masse de gros salaires. Chacun a des postes dans les bureaux fermés pour gérer ça. Et puis, y a besoin d'avoir une équipe réduite qu'ils ont récupérée assez vite, vu qu'effectivement, il n'y avait qu'à, entre guillemets, se baisser pour voir des gens qui avaient besoin de bosser. Donc, tout s'est mis en place comme ça. Et puis, une licence comme Jeux Vidéo Magazine ou comme Console Plus à une époque, c'est des licences où tu ne poses pas de questions. Tu sais que c'est bankable. Mmh. Là, il y a eu 2 mois sans publication. C'est rien, enfin c'est déjà beaucoup parce c'est, attention, sur un mensuel ça fait quand même un petit peu de dégâts au début. Sur la première année, c'est vrai que ça n'a peut-être pas été aussi facile que ça, mais à partir de la deuxième année, tu sais que tu es dans une situation beaucoup plus bénéficiaire, et puis surtout t'as une liberté quoi, t'as cette liberté que t'as dans une petite boîte, tu retrouves une ambiance de boîte entre guillemets familiale quoi. Moi le matin quand je vais à la rédac, que ce soit pour The Game ou pour JVM, je sais que je vais trouver 8-10 personnes maximum dans les locaux. C'est humain quoi, c'est la dimension humaine. On n'est pas 200 avec une DRH qui me connaît que de nom, avec des gens que tu croises, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas à quoi ils sont payés, mais ils sont là, ils rigolent bien et tu sais pas ce qu'ils font. Enfin, c'est tout ça quoi, toute cette différence pour moi elle est vraiment là. Et puis le marketing intelligent dont tu parlais, je pense que c'est surtout gérer en fait le flux d'investissement que tu vas faire de manière intelligente, c'est-à-dire que tu vas pas non plus faire de la presse fanzine. Tu vas pas partir sur les couvertures passionnées, genre non, on va défendre ce jeu-là parce que tu comprends, c'est notif et tout. Tu vas aussi faire des investissements intelligents sur le papier. Tu vas dire, est-ce qu'il y a un papier sympa à trouver pour The Game notamment et qui soit pas trop coûteux. Voilà, c'est un ensemble de décisions intelligentes, frappées au coin du bon sens. Tout ce qu'on n'a pas eu, nous, pendant des années, il y a une espèce d'expression de la frustration qu'on a eue pendant des années, quoi.
D'accord. Et ça, ça là-dessus, vous avez apporté votre expérience là-dessus. Je pense à Jean-François Maurice, notamment, au TSR, sur la distribution, ce que tu me disais. Et ça, finalement, c'est un petit peu ce que tu me disais aussi, le passage à l'âge adulte, par rapport à ce que vous étiez avant.
Complètement. Bon, l'âge adulte, JF, lui, il l'a passé il y a longtemps, parce qu'il n'est pas resté aussi longtemps que d'autres dans la presse-jeu. Quand il est parti au moment du rachat de HDP par Futur, il est parti lui vers des presses différentes. Il a fait un peu de Urban, il a fait un peu de Première, il s'est intéressé à la presse grand public un peu, à la presse gratuite, enfin plein de modèles économiques différents. C'est quelqu'un qui est très, très en éveil, très en curiosité de ce qui se passe autour de lui. Brice de son côté, lui, a vu tout le naufrage du bateau Amiral et était aux premières loges pour ça parce qu'il était à l'époque directeur de la rédaction. Et sans pouvoir décider, il essayait lui de décoper avec les autres et d'essayer de motiver les gens à sauver le truc quoi. Donc c'est deux expériences complémentaires, et puis on a une troisième, c'est celle de Laurent qui est notre DG, qui lui a une expérience plus marketing, mais bon marketing. On disait tout à l'heure, c'est un peu comme marketing, le sketch du bon chasseur et du mauvais chasseur. C'est marketing au sens large, c'est-à-dire qu'il gère aussi la diffusion et tous ces aspects-là, lui, il sait très bien ce qu'il faut faire ou pas faire, contrairement à tout ce qu'on a pu connaître pendant des années auparavant. Et tout ça, ça c'est génial parce qu'on a trois personnes très différentes, qui ont leur profil et qui le font, mais encore une fois, dans d'autres boîtes qui éditent des magazines aujourd'hui, ça se fait aussi. Mais pas forcément avec trois personnes, peut-être avec une seule qui a tout compris. Moi, je pense souvent aux mecs de Canard PC, mais il y en a d'autres. J'y vais le Mac, je pense qu'aujourd'hui, ils s'en sortent très bien. Et ça, c'est des gens qui ont compris des erreurs qui ont été commises pendant des années par cette boîte-là. Et puis surtout, il faut revenir à ça, qui éditorialement propose enfin des magazines différents et en phase avec notre époque.
Tous sont des anciens de la presse qui en ont clairement appris.
Tous sont des anciens de la presse.
Les trois que tu citais, Canard PC, JV Le Mag, etc. Ont tous connu un moment futur et le.
Le fait que futur s'arrête, ça a aussi enlevé un espèce de confort. Il y a un moment donné, on était tous là, et moi le premier, à dire ouais, c'est nul, c'est pas ça qu'il faudrait faire, mais bon, on crache pas dans la soupe. T'es là, tu bosses, tu fais ton magazine, et puis tant pis, quoi, on verra bien. Le jour où ce truc coule. Évidemment que t'as plus besoin de te retourner, t'as plus besoin de te secouer quoi, quelque part pour faire quelque chose. Et ça a fait du bien aussi au niveau éditorial, tout ça. La chute de la mort de tous ces magazines d'un coup, là, ça a fait du bien au niveau éditorial, ça a réveillé les gens. En parallèle, il y a...
C'est un mal pour un bien.
Exactement.
D'accord.